Bonsoir. Près de deux mois après l'installation du Sénat de la 4e législature, l'élection du bureau définitif se fait toujours attendre. Selon des sources au niveau de la Chambre haute du Parlement, les contraintes financières et l'adoption du nouveau règlement intérieur du Sénat, qui par ailleurs a eu lieu hier mercredi, sont à la base de ce retard. Lors de la visite du président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinvelo, au chef de l'État, le 3 juin dernier, il avait annoncé que l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, sauf imprévu, devrait se tenir au plus tard le 15 juin 2024. Un mois plus tard, le bureau définitif du Sénat n'est toujours pas installé. Comment expliquer ce retard? Quelles sont les innovations à retenir du nouveau règlement intérieur du Sénat? Nous en parlons ce soir avec Michel Lingepo Molonga. Il est sénateur élu de la Mongala, cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Monsieur Michel Lingepo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Ferdinand Kambéré, avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Maître Kambéré, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et aussi avec nous dans ce débat, Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais pour la politique, la gouvernance et la violence. Itiel Batoumike, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le règlement d'ordre intérieur du Sénat a été adopté hier, mercredi, voilà, au Sénat. Au cours de la séance plénière, les 80 sénateurs présents ont unanimement voté en faveur de ce document. Parmi les innovations retenues après deux jours de suite du débat, il y a notamment les obligations morales qui incomberaient désormais aux sénateurs à vie afin qu'ils soient véritablement membre du Sénat. On écoute à ce sujet le président de la commission spéciale portant élaboration du règlement intérieur, Christophe Lutundula, au micro de Michel Kifindangoy.
Le règlement prévoit que les sénateurs à vie, c'est-à-dire en fait les anciens chefs d'État, ne sont soumis à aucune des obligations auxquelles sont astreints les membres de la Chambre haute. Votre commission, en toute modestie, a estimé qu'il y a quelques contraintes qui relèvent de l'ordre moral. Et donc, il était nécessaire que la dignité, les rangs, la considération et l'image du Sénat soient préservées par tous, fussent-ils les collègues à vie, anciens chefs d'État. Et ensuite, les lois de la République, la Constitution, doivent être respectées par tous. Et enfin, une autre contrainte morale, je souligne le terme moral, c'est que à partir du moment où on porte le titre, on a le statut. Parce que là, il y a des droits et des obligations des sénateurs. Nous nous devons respect, considération et solidarité.
C'était là Christophe Lutundula, président de la commission spéciale portant élaboration du règlement intérieur du Sénat. Michel Lingepo Molonga, je rappelle que vous êtes sénateur élu de la Mongala, vous êtes cadre du MLC, c'est un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Près de deux mois après l'installation du Sénat, on attend toujours l'élection du bureau définitif. Selon des sources à l'interne au niveau du Sénat, on nous parle des contraintes financière, mais aussi du retard pris dans l'adoption du règlement intérieur du Sénat, qui d'ailleurs a été adopté hier, hein, le règlement intérieur. Est-ce que vous confirmez d'abord que ce sont ces deux éléments qui sont à la base de ce retard que nous enregistrons?
Merci, madame. Relativement aux deux contraintes que vous évoquez, je voudrais juste préciser que nous n'avons pas des contraintes en fait liées aux finances. Le retard est dû essentiellement à l'organisation des élections dans notre pays. Il vous souviendra que lorsque la CENI a programmé l'organisation des élections sénatoriales, il y a eu report. Et tout est parti dès là. Et le Sénat en a subi en fait des conséquences sur le plan de la matérialisation en fait de l'organisation du bureau provisoire et des objectifs assignés au bureau provisoire. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement lié aux finances, mais c'est une question d'ordre technique, liée à l'organe technique qui est en fait l'organisateur ou l'organisatrice des élections, qui est la CENI. Donc, voilà un peu les problèmes.
Mais ça demande quoi, organiser l'élection du bureau définitif lors de sa visite le 3 juin dernier à la présidence de la République, le président du bureau provisoire avait annoncé que l'élection se tiendrait au plus tard, hein, sauf imprévu, le 15 juin. Nous sommes le 11 juin, presque 11 juillet aujourd'hui, mais on ne l'a toujours pas, en fait, ce bureau.
Merci madame. En fait, nous ne pouvons pas sauter les étapes à suivre. D'abord, lorsqu'on installe les bureaux provisoires ont trois missions essentielles. La validation des mandats et les règlements intérieurs, l'élaboration du règlement intérieur du Sénat et ensuite l'élection du bureau définitif. S'agissant des premiers points, je crois que tout a été fait. Les sénateurs ont été élus, mais de manière échéancier parce que les élections n'avaient pas eu lieu au même moment sur toute étendue de la République. Je parle des élections sénatoriales. Ça aussi, c'est un problème à relever. Et deuxièmement, il faudra rédiger les règlements intérieurs. Aussi longtemps que...
Ça a pris beaucoup de temps. Le débat était assez houleux.
Justement, il fallait apporter des innovations majeures par rapport, en fait, à ce qu'on revendique ou on réclame auprès du Sénat.
Parce que vous parlez des innovations, excusez-moi de vous interrompre. Quelles sont ces innovations que vous avez apportées dans ce nouveau règlement intérieur du Sénat?
En fait, la question a eu lieu autour, parce que vous savez que le Sénat ou les sénateurs représentent la province. Et nous nous sommes posé la question de savoir quel est le contenu qu'on donne à cette représentation. Ça nous a pris du temps. Parce que les uns disent que, en fait, le Sénat, c'est une institution budgétivore. On ne voit pas son importance parce que les provinces ne se développent pas, alors que le Sénat représente les provinces. On aurait dû avoir quand même le Sénat comme en fait le mécanisme ou une institution qui protège et défend en fait la province. Et sur ce point-là, quand vous prenez les rapports qui ont été soumis à l'Assemblée plénière, il a été décidé de manière unanime de recourir à la Cour constitutionnelle pour qu'on nous donne le contenu exact de l'article 104 de la Constitution, lorsqu'on dit que le sénateur représente sa province, quel est le contenu qu'on donne à ça? Et c'était en fait l'une des innovations majeures que nous avions voulu apporter et que nous avions dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas en fait y répondre parce qu'il y a une instance bien déterminée par la loi pour pouvoir y faire. Et voilà. Et d'autres innovations relativement à ça, comme vous venez de le dire, à ce qui concerne les sénateurs à vie, nous avions retenu les principes, mais moyennant quelques ajustements, c'est-à-dire liés par exemple à la participation aux travaux, le respect mutuel, le respect de la Constitution, la courtoisie et autres, l'honneur. Parce que quand on est sénateur, on est sage, vous êtes quand même tenu à un certain nombre de devoirs d'honorabilité. Et c'est ce que nous avions pratiquement inscrit parce que relativement au règlement intérieur en vigueur, les sénateurs à vie étaient exemptés de toute obligation. Et nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il faille le maintenir ou relativiser?
Alors vous avez estimé que le sénateur à vie désormais devrait participer aux travaux?
Oui, il doit participer parce qu'il a une expérience. Il a une expérience, c'est pas pour rien que le constituant a fait de lui un sénateur à vie. Nous avions besoin de son expérience lors des travaux en commission ou en plénière. Il plaît nous éclairer pour enrichir les travaux. Et c'est pas pour rien qu'il est sénateur à vie. Donc sur ce point-là, nous nous sommes dit qu'il fallait relativiser participation, l'honneur, le respect de la Constitution et tout ça.
Qu'est-ce que vous entendez par l'honneur?
L'honneur, en fait, il y a quand même un certain nombre de prestiges quand vous faites partir d'une institution hautement politique de la République et surtout que vous êtes sénateur à vie. Voyez-vous? Et tout ça, ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'on peut accepter qu'un sénateur à vie se livre à n'importe quel acte? Non, on ne peut pas. C'est une obligation, nous l'avons dit, c'est une obligation morale. Morale pour préserver, en fait, les acquis de la Constitution et les consolider. Donc, ce sont en fait des motivations d'ordre moral qui a poussé l'Assemblée plénière à relativiser, mais au fond, ça ne change à rien. Ça ne change à rien. Et d'ailleurs...
Alors, on aimerait comprendre, sénateur Michel Lingepo, l'honneur, vous dites que vous n'aimeriez pas voir un sénateur à vie se livrer à n'importe quel acte. Essayez un peu d'être concret et précis. Vous avez un cas où il y a eu un problème ou un cas quelconque et vous êtes dit que ça doit s'arrêter. Désormais, le sénateur à vie doit respecter la Constitution, doit faire l'honneur du Sénat.
Non, nous n'avons pas eu un cas, mais c'est juste nous sommes dit pourquoi en fait on doit en fait l'exonérer de toutes les obligations, alors que constitutionnellement parlant, il y a des obligations pour un sénateur. Quand on est élu sénateur, on est tenu de participer aux travaux, par exemple. Et surtout qu'un sénateur à vie, il a l'attitude également, pas une obligation, mais il a l'attitude de participer aux travaux pour enrichir les travaux en commission comme en plénière. Et nous disons ici très bien que ce sont en fait des motivations d'ordre moral qui nous a permis de relativiser. Ce n'est pas des considérations d'ordre politique. Voilà.
Alors, c'est tous ces éléments, c'est toutes ces contraintes qui font ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore le bureau définitif.
En fait, il y en a plusieurs. Par exemple, parce qu'il y a également la question des collaborations entre les provinces et l'Assemblée. Entre les provinces et les Sénats, par exemple. Quelle est en fait la relation qui doit animer les deux institutions? C'est la question que nous nous sommes posée également, qu'il faille en fait répondre à toute sérénité. Et ça nous a pris du temps et qui nous a ramené toujours à une interprétation de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Et nous ne pouvons pas courir derrière les temps. La question principale ici, est-ce que doit-on répondre aux besoins en fait qui nous permettra de travailler en toute sérénité pendant toute la législature, ou faille faire un travail d'arrache-pied. Et nous sommes dit non, nous ne pouvons pas faire un travail d'arrache-pied, il faut faire un travail serein et de manière réfléchie. Et nous ne perdons rien par rapport à tout ça.
Et maintenant que le règlement a été adopté, est-ce qu'on a une idée sur la date de l'organisation de l'élection du bureau définitif, ou bien il faut attendre?
Avant que je réponde à votre question, il y a une préoccupation que je n'ai pas pu relever, une innovation, parce qu'on s'est posé la question de savoir, parce que l'actuel règlement intérieur donne la possibilité à un sénateur à vie de pouvoir effectivement effectuer des travaux rémunérés auprès des organisations internationales. Et sur ce point-là, on s'est posé la question de savoir, est-ce que quand il va par exemple dans une organisation internationale qui a des conflits avec la République démocratique du Congo, est-ce qu'il peut aller travailler dans cette organisation-là où il faille avoir en fait l'autorisation du Sénat? Et nous avions formulé des recommandations. Nous disons oui, il peut en fait exercer des fonctions rémunérées auprès des organisations internationales, moyennant en fait l'avis préalable du Sénat. Ça, ce sont des propos, des recommandations. Ce n'était pas retenu, ce sont des recommandations et nous avions dit il faut revisiter en fait la loi portant les statuts des anciens chefs de l'État et des corps. Ça aussi c'est une recommandation que nous avions formulée parce que nous avons estimé, en sauvegardant l'honneur, la dignité et tout consort, on ne peut pas avoir un sénateur à vie exercer des fonctions rémunérées auprès des organisations internationales qui a des conflits opposés avec la République démocratique du Congo. Ça aussi, ça a fait l'objet des innovations majeures que nous avions apportées, tout en formulant des recommandations sur la révision de cette loi-là.
Merci Michel Lingepo Molunga. Maître Kombéré vient de faire son entrée dans ce studio de Radio Okapi. Il est avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Nous parlons du Sénat, où près de deux mois après l'installation de cette chambre haute de Parlement, l'élection du bureau définitif se fait toujours attendre. On a évoqué quelques contraintes ici qui sont à la base hein, de ce retard. C'est notamment, on a parlé de contraintes financières, mais le sénateur Michel Linguepo dit qu'il n'y a pas de problème des finances, c'est plutôt une organisation, plutôt c'est l'organisation technique, hein, ces élections, mais aussi l'adoption du règlement intérieur qui a pris du retard. Et donc, ça a été adopté hier par le Sénat. Il y a eu des innovations dans ce nouveau règlement intérieur du Sénat, notamment sur le statut des anciens chefs d'État ou sénateurs à vie. On aimerait avoir d'abord votre avis sur ce retard hein, par rapport à l'installation du bureau définitif du Sénat.
Merci Madame Kelly. Merci de nous avoir associés à ce débat. Laissez-moi saluer d'abord la présence à ce débat du sénateur et simplement saluer les milliers d'auditeurs de la radio Capi qui nous suivent maintenant. Madame Kelly, vous allez comprendre, je m'excuse pour le retard, mais en venant, je suivais déjà dans les véhicules ce que je peux considérer comme les tergiversations, parce que ce que vous aviez dit déjà dans l'introduction, en réalité ce qui était présenté comme contrainte, c'était des contraintes financières. Je constate que les sénateurs lui voudraient s'éclipser, s'évader pour aujourd'hui parler des contraintes techniques, je l'ai vu acquiser la CENI et ainsi de suite. Tout ça, madame, pour nous c'est simplement des gens, un pouvoir qui prend tout à la légère, qui prend tout son temps, alors que le pays aujourd'hui est en train de brûler, le pays est en crise. Mais on a l'impression que lorsqu'on arrive à Kinshasa, de la manière que les élections étaient organisées là, on vit avec des scores pharaoniques, mais à Kinshasa, même les bureaux de l'Assemblée nationale, vous avez vu le temps qu'ils ont pris, 6 mois. Et le Sénat a quand même des justifications. Aussi pour dire, alors que c'est toujours les mêmes règlements intérieurs, madame. Quatrième législature. C'est toujours les mêmes règlements. Et les innovations dont on est en train de parler sont lesquelles, lorsqu'on s'attache que sur la personne, on voit bien que c'est la personne de l'ancien président de la République pour essayer de voir sa conduite, comment il sera, autorité morale, obligation morale. C'est quoi ? C'est dire simplement à l'opinion nationale que nous avons le temps d'arranger ici à Kinshasa. Vous mourrez comme vous mourrez. Que le Rwanda vous occupe, que l'Ouganda vous occupe. On s'en fout. Donc personne n'est pressé ici à Kinshasa du sort de la population, tués, déplacés de leur village. On s'arrange dans des négociations cachotières. Les uns disent non, il y a avancé dans les négociations. Ici à Kinshasa, on dit on n'a pas encore commencé. Donc on a tous les temps. Entre-temps, cette population-là, qu'on a trompée hier, qu'elle allait aux élections. Est-ce qu'on pense à ça?
Mais ces innovations apportées aujourd'hui au Sénat, dans le règlement intérieur, Maître Ferdinand Kambere, vous pensez que c'est l'acharnement sur la personne de Joseph Kabila?
Ça n'a rien d'autre, ça n'a pas d'autre nom que ça.
Il est quand même sénateur à vie, on veut qu'il participe aux travaux.
Mais ça change à quoi? Sénateur à vie, ce n'est pas un mot nouveau, ce n'est pas une innovation congolaise. La constitution, comme tout le monde le dit, celle que nous avons, on l'a quand même un peu imitée de celle qui est en France. Ils ont commencé par ça, sénateur à vie. Aujourd'hui, on parle de quoi? D'un membre, un ancien président de la République, c'est un membre du Conseil constitutionnel à vie. Ça change quoi? C'est un droit subjectif. Il peut même renoncer. On fait aujourd'hui l'obliger de dire lundi, mardi, tu viens. Ça se passe où? Les débats qu'on suivait là, qu'un sénateur à vie ne peut plus être candidat. Donc la tendance, en fait, c'était ça, Kelly. La tendance, c'était ça. Mais ici, avec François Hollande, qui est, si nous considérons comme ancien président de la République et donc d'office comme un membre du Conseil constitutionnel français à vie, on l'a vu candidat. Ça fait un débat. Il faut vraiment
à la
qu'on distraye tous les... Oui, à la députation nationale. Il faut qu'on distraye les Congolais, que sénateurs à vie, ça importe, important, autorité morale, obligation. C'est quoi ça? C'est une confusion dans laquelle on voudrait simplement plonger le peuple pour qu'on oublie les réels défis que le gouvernement doit relever. Je vis madame la secrétaire... la représentante de la, du secrétaire général des Nations Unies, ce qu'elle a dit aux Nations Unies. Et tout ça ne préoccupe, ne semble pas préoccuper les gouvernements. Si ici on nous parle qu'il y a trêve, que les gens ne se battent plus, c'est à Kinshasa qu'on se réjouit, les institutions de Kinshasa se réjouissent, là où le peuple... auquel on a dit que dès que le Sénat est là, dès que l'Assemblée nationale est là, on va réunir les deux chambres, on va frapper Kigali. Mais aujourd'hui, c'est comme si on courait derrière Kigali. Ils se reposent, nous sommes contents parce que nous nous reposons. Ils se battent, j'ai encore suivi le matin, entrer encore notre armée et ramener au bas toujours de ceux qui se plaignent. Mais jusqu'à quand on va sentir réellement qu'ils ont la volonté de ramener la paix à l'Est. Qu'ils ont la volonté de mettre...
Ces innovations n'apporteront rien.
C'est une distraction, tout simplement. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Vous allez... Il n'est même pas obligé. Parce qu'il peut même renoncer à ça. Ça ne change pas à lui le fait qu'il soit un ancien président de la République. Est-ce que vous pensez que tous ces sages que nous croyons être au Sénat, ils devaient prendre comme ça d'état et dire aux Congolais qu'ils sont en train de réfléchir sur les innovations?
On a bien besoin de son expertise.
On parle de cette histoire où les Sénats représentent les provinces. Je pouvais encore bien réfléchir et comprendre les débats. C'est allé jusqu'à quel point à ce niveau-là? Parce que les provinces, il n'y a aucune province qui marche. C'est encore... Les gouverneurs et les assemblées nationales sont prises en otage par les ministres de l'Intérieur. Ils ont mis quelle innovation? C'est là où on devait plutôt les attendre dans les débats réels sur les défis à relever de la population, sur la fonctionnalité des institutions au niveau des provinces, sur comment éviter que ces institutions provinciales soient à la merci du gouvernement central. C'est cela. Et s'il y a des innovations à apporter, quels sont ce qu'ils sont capables de faire pour que finalement cette décentralisation ou ce régionalisme tant voulu par tout le monde pour que ça fonctionne, que le développement soit impulsé à la base, on sente. Mais pas de projet, ça 45 territoires, on ne parle même pas de gouverneur, on ne sait pas savoir comment c'est où, c'est de la présidence, on ne sait pas un député et lui devient les territoires. Et... un flou total.
Merci. Je veux vous redonner la parole, Michel Lingefo. Le temps pour nous de donner la parole aussi à Étienne Batumike, qui est chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Étienne Batumike, votre lecture par rapport au retard enregistré ou à l'installation du bureau définitif du Sénat.
Je pense qu'au-delà des considérations politiques qui peuvent entourer ce retard, il faut ne pas reconnaître, on ne peut pas ne pas reconnaître les contours techniques liés à l'organisation des élections sénatoriales qu'on a vu par le passé au cours de ce cycle électoral. C'est la première fois que ces élections soient organisées en trois temps. Il y a eu d'abord quelques provinces qui ont, la majorité des provinces qui ont connu des élections sénatoriales, il y a eu deux autres, puis trois autres, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est de nature déjà à retarder la mise en place du bureau du Sénat, quoique cela semble aussi s'inscrire dans une logique de tirer les choses en longueur pour aussi des intérêts financiers, parce que le bureau d'âge, entre-temps, il s'est fait de l'argent. On a vu du côté de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge réclamé au bureau définitif des émoluments et des membres des cabinets et des membres du bureau d'âge. Et donc, ce n'est pas aussi à exclure dans l'analyse qu'il y a toute cette dynamique-là de la capture des ressources ou des ressources budgétaires allouées au bureau d'âge et plus ils se font de l'argent. Et donc, ça devrait être regardé avec soin. Mais je me demande également la question du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée, du Sénat ou des chambres parlementaires en général, parce que j'ai eu déjà à le dire sur votre micro ici à Radio Capi, qui me paraissait superfétatoire d'avoir chaque fois, à chaque législature, un travail d'élaboration du nouveau règlement intérieur. Pourquoi on n'irait pas vers un règlement intérieur qui est permanent? Et s'il y a besoin de l'amender, on l'amende même en cours de législature, que ça soit un préalable avant le décollage de la législature. Je trouve que c'est une lourdeur dans la mise en place des institutions et ça n'aide pas le pays. Avec, comme le disait Ferdinand Cambert tout à l'heure, je pense que le pays est assez déjà avancé depuis 2007 avec le premier règlement et on pourrait à un moment donné se faire un consensus pour que le règlement qui est adopté puisse faire une permanence et qu'il soit en fait amendé en cas de besoin. Mais refaire le même travail, c'est vraiment une perte de temps et je ne trouve pas l'utilité de ces bureaux d'âge, je ne trouve pas l'utilité de ces bureaux provisoires et les matières qui sont inscrites à l'ordre du jour de la session inaugurale ou de la session provisoire, pour moi, ne me semble pas pertinent parce que vous avez la validation des mandats. Et là, vous validez les mandats alors que les contentieux sont encore en cours et on a vu ce que ça fait des députés validés, invalidés, réinvalidés. Et tout ça, il faut arriver à un moment donné à se mettre d'accord que ça ne marche pas et qu'on revoie ce dispositif institutionnel qui est à la base des retards dans la mise en place des institutions qui, de fait, pénalise aussi la gouvernance du pays. Parce que, comme le rappelait Ferdinand Cambéré, on voit aujourd'hui que la promesse du président de la République de réunir, et lui-même l'a dit lors d'une conférence de presse, que c'était compliqué aujourd'hui de réunir les deux chambres du Parlement pour faire la guerre au Rwanda parce qu'on n'a pas encore tous les dispositifs parlementaires nécessaires. Et donc, ça, c'est un blocage institutionnel, bien que il faut le prendre aussi avec beaucoup de réserves, puisqu'il y a entre-temps toutes les dynamiques liées à la composition du bureau, et on a vu les querelles entre qui est le plus vieux des sénateurs pour remplacer l'actuel président du bureau d'âge. Donc c'est des questions, des querelles intestines aussi à la majorité parlementaire au Sénat qui font qu'il y ait ce retard, puisqu'on ne sait pas jusque-là c'est quoi qui sera le ticket de l'Union sacrée au niveau du bureau.
Merci Étienne Batoumiké. Michel Lingopo, vous avez la parole.
Merci pour la parole, madame. Je crois que la démarche ici consiste à parler sur les innovations que nous avions apportées avec l'actuel projet qui sera soumis à la Cour constitutionnelle. J'ai suivi avec beaucoup d'attention notre compatriote Cambéré qui évoque la question de la guerre. Je ne suis pas venu ici pour répondre à des questions liées à la gestion de la guerre ou de la diplomatie sur le règlement en fait des contentieux, parce qu'il y a des instances bien habilitées pour répondre à cette question.
Alors, je voulais juste dire qu'il y a des questions plus importantes à traiter en ce moment que de vous appesantir sur la révisitation du règlement intérieur.
En fait,
l'a dit aussi Étienne Batoumiké, il estime que c'est une perte de temps.
Ce n'est pas une perte de temps, c'est constitutionnel. C'est la Constitution qui a voulu à ce que, lorsque, au début de chaque législature, nous renouvelons nos chambres, il faudrait que nous puissions procéder à la validation des mandats, à l'adoption des nouveaux en fait, règlements intérieurs, et ensuite à l'installation du bureau définitif. S'ils veulent, alors procédons à la modification de la Constitution. C'est une exigence constitutionnelle. Ils veulent assez que nous puissions respecter la Constitution, mais qu'ils aillent jusqu'au bout avec cette logique. Est-ce que la logique ou la démarche que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, est-ce qu'elle est telle, anticonstitutionnelle ou constitutionnelle? Je pense que c'est constitutionnel. S'il y a des failles, attendons le moment opportun pour que nous puissions revisiter certaines dispositions. C'est ça, en fait, le problème. Deuxièmement, lorsque M. Kambere évoque le problème, il dit, voilà, nous sommes réunis uniquement pour examiner la question d'anciens chefs de l'État, alors qu'il a renoncé à hier et tout construit. Ici, ce sont les obligations d'une personne qui appartient à un corps. Est-ce que lorsqu'on appartient à un corps, on ne peut pas observer certaines règles? Alors, si c'est ailleurs où vous appartenez à une maison, il n'y a pas de règles, moi je pense que cette maison-là est appelée à disparaître. Lorsqu'on évoque des questions d'ordre moral, on vous dit il faut de la dignité, des respects mutuels. Vous êtes agent de l'État, vous êtes astreint à certaines obligations. Est-ce que c'est de la distraction? C'est des pertes de temps. Et nous ne sommes pas limités qu'à ça, madame. Je vous ai dit ici, nous sommes posés la question de savoir, parce que le sénateur représente sa province. Alors, quel est le contenu que nous pouvons donner à l'article 104, alinéa D de la Constitution? Le débat a tourné autour de ça. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons donner le contenu? Ou c'est la Cour constitutionnelle? Quand vous prenez le rapport qui a été dressé par la Commission, parce que j'étais membre de la Commission, il a été demandé que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle pour que nous ayons, en fait, le contenu là-dessus. Autre innovation, le débat a tourné autour des relations entre le Sénat et les institutions provinciales. Tout ça, en fait, le Sénat doit être quand même en mesure d'accompagner les institutions provinciales. Parce qu'on sait comment ça se compose lorsque la Chambre est renouvelée. Il y a des gens qui ne savent pas commencer par où à écrire l'édit, contrôler en fait l'exécutif provincial et tout ça. Ça, ce sont des questions que nous nous sommes posées pour innover. Et nous avons formulé des recommandations. Et parmi les initiatives législatives, nous avions pratiquement renforcé la question liée au contrôle du gouvernement, notamment sur la question au gouvernement. C'est-à-dire, nous avions prévu que le Premier ministre puisse venir au Sénat nous expliquer, par exemple, sur une question liée à la décentralisation, ou en autant avec l'évolution, par exemple. Nous l'avons mis. La question liée aux finances, parce que, on dit, les gens cherchent à rallonger les choses pour les intérêts financiers, nous l'avons également évoqué. Et pour répondre à cette question, nous avions dit, maintenant là, il y aura une commission ad hoc, de manière à contrôler les prêts de trésorerie du Sénat, à chaque fois que le bureau voudra effectuer en fait des dépenses. Ça aussi, en fait, des mécanismes que nous avions mis en place pour arrêter l'hémorragie des gabegies financières. Donc, ce sont les innovations que nous avions pu apporter. Et la question liée au bureau définitif, qu'a relevé notre ami. Effectivement, c'était en fait une question qui prêtait confusion d'emblée. En réalité, il n'en était pas question. Et ça, il faut aussi apporter des réponses. Et tout ça, ce sont des questions que les sénateurs ont pu en fait réfléchir et ont trouvé. Ce n'est qu'un projet, nous attendons en fait que ça soit censuré par la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas que ça. La question liée à la guerre, je crois que lorsque nous allons procéder, si la Cour nous donne la possibilité de censurer tôt notre règlement intérieur, le projet que qui sera soumis à la Cour constitutionnelle la semaine prochaine, à ce moment-là, tant que le parlementaire, on reviendra pour poser la question au gouvernement, on en est où avec ça?
Merci Michel Lignepo, les internautes sont très nombreux à suivre cette émission sur la page Facebook de Radio Kepi. Roger Ning, depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba, estime que c'est un passe-temps, nous sommes en temps de guerre, nous devrons être pragmatiques. Samuel Aoussakadi, depuis Kisasu, il y a qu'une ça demande au sénateur Michel qui parle des innovations si cela va apporter quoi au peuple congolais. Nous savons que ces innovations sont seulement pour leurs intérêts. David Wedi, depuis Kinshasa, je salue la présence de Maître Ferdinand Kambere dans le studio de Radio Kapi. La question que je lui pose est celle de savoir si Joseph Kabila continue à toucher son argent comme sénateur à vie. Très rapidement, Maître Kambere, après on va ouvrir le standard pour les auditeurs qui appellent.
Bon, je crois que c'est peut-être le sénateur Michel qui peut répondre à cette question, parce que bon, je ne gère pas son patrimoine, mais à ce que je sache, parce que c'est à répondre en même temps à la préoccupation du sénateur Michel. Moi, je m'étonne. Un ancien président de la République a un statut qui est protégé par une loi particulière. Est-ce que les sénateurs aujourd'hui veulent qu'il y ait un nouveau statut d'un sénateur à vie? Parce que les obligations là, s'il est sénateur à vie et qu'on lui reconnaît comme tel, le fait qu'il peut siéger ou non, pourquoi ceux qui sont les droits et obligations de ces sénateurs à vie ne sont pas les mêmes à lui? Pourquoi on veut créer d'autres? Et c'est dit où dans la Constitution? Parce qu'eux, ils disent qu'ils respectent la Constitution. C'est dit où dans la Constitution? Il n'y a rien qui a été particularisé par rapport à un ancien président de la République qui est sénateur à vie. C'est un titre honorifique. Qu'est-ce qu'on veut crier? Ce n'est pas un mandat. On veut les sanctionner.
Ça va s'appliquer à tous les anciens chefs d'État.
Mais à tous les anciens présidents. Mais ils ont d'abord les statuts. Les statuts est celui d'ancien. Et c'est là où on parle de ses avantages, de ses obligations. C'est dans la loi, là. Le Sénat veut créer quoi de nouveau? Vous voyez que c'est une pire distraction dans laquelle on est en train de verser tout un peuple qui est en train d'être martyrisé par l'inaction, le manque de vision au sommet de l'État. Alors que tous les espoirs étaient fondés lorsqu'ils étaient en campagne. Ils ont fait trop de bruit. C'est de ça dont on parle.
On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont en ligne. Ils sont très très nombreux à vouloir participer à ce débat en direction au Katanga, dans la province de Lubumbashi, pour écouter cet auditeur.
Je m'appelle Christian Pagnan. J'appelle à partir de Lubumbashi, c'est dans les Haut-Katanga. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. J'estime à mon humble avis que c'est quand la République est fautive que les fossoyeurs deviennent innocemment les pauvres citoyens. Au moment où la CENI, qui organise les élections, n'a pas les moyens pour organiser les élections locales, est-ce l'argent qui manque? Est-ce la volonté d'organiser les élections qui manque? S'il faille vérifier le méandre de cette manque de volonté à organiser ces élections, vous allez voir qu'il faut faire tomber le bureau provisoire actuel, proposer une solution souple et palliative, afin de donner à la chambre haute du Parlement ses dirigeants qui ont une part de solution dans la guerre à l'est du pays et au développement de notre cher et beau pays.
Alors ça, c'est l'avis de Pierrot qui appelle depuis le Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et Tel Batoubiki, est-ce que vous avez un commentaire à faire?
Non, je pense que oui, les propositions que nous sommes en train de formuler demandent peut-être qu'il y ait une révision constitutionnelle. Et la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Mais faut-il qu'elle respecte les prescrits de l'article 220 de la Constitution? Et donc, les débats de la révision de la Constitution pour éviter qu'il y ait ce retard auquel on est en train d'assister au cours de cette législature ne doit pas faire peur, en fait. Mais je pense en même temps par rapport au débat sur les innovations qui sont dans le nouveau règlement intérieur, qu'il y a des initiatives qui sont à saluer et d'autres initiatives qui questionnent sur leur motivation. Je n'entends pas, en tout cas, l'honorable parler de l'augmentation du nombre d'assistants parlementaires. Il me semble aujourd'hui que le Sénat suit la logique de l'Assemblée nationale qui veut octroyer à chaque parlementaire un assistant parlementaire supplémentaire. Cela ne rentre pas dans l'optique de la réduction du train de vie des institutions qui est souhaité et qui devrait permettre au pays de mettre de côté un peu plus de moyens pour faire face à la guerre dont le pays est victime dans sa partie orientale. Autre élément, le débat sur le statut d'ancien président de la République, je pense qu'il n'est pas malvenu de débattre de cette question-là, puisqu'en réalité, avoir un ancien président de la République qui a un statut particulier qui est prévu dans la loi spécifique et un autre statut de sénateur à vie qui est un autre statut particulier par rapport à tous les autres sénateurs, à un moment, ça fait double emploi. Et je pense que le président, un ancien président de la République qui est des droits sénateur à vie, devrait, pour des raisons d'exemplarité et même de contribution au débat national, à un moment contribuer au débat dans le Sénat. Et donc, ce n'est pas mauvais qu'on demande à un ancien président de la République de mettre son intelligence à la contribution de l'édification de l'état des droits et à l'avancement de la démocratie au pays. Peut-être c'est le moment qui est mal choisi, sachant qu'il y a aujourd'hui des accusations qui pèsent sur lui, et peut-être je pense que c'est ce qui fait la réticence dans son camp, qui peut estimer qu'on est en train de lui tendre un guet-apens pour qu'il rentre au pays et qu'on l'arrête, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a eu des moments où les services de renseignement ont demandé, ont organisé une conférence de presse où son nom a été cité parmi les personnes qui serait à l'origine des troubles ou des initiatives de troubler l'ordre public. Donc il y a toutes ces questions, et c'est là que le moment peut être mal choisi, mais je pense que le débat en lui-même, il mérite d'être posé si on doit garder des rémunérations pour lui en tant que sénateur, et en même temps en tant qu'ancien chef d'État. Je pense que c'est problématique, parce que là aussi ça ne contribue pas à la réduction du train de vie des institutions. Et c'est des questions qui méritent d'être posées, parce qu'à un moment, il faudrait que même en termes de rémunération, ils choisissent où est-ce qu'il est payé. Est-ce qu'il est payé comme sénateur à vie ou est-ce qu'il est payé comme un ancien chef d'État?
Merci. Merci à Paulin Capier qui nous suit depuis Lomami à Cabinda. Maris Kaseya, depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga. Merci également à... plutôt à Sam Chimba depuis Lubumbashi, Sonzo Bora aussi, qui nous suit en ce moment. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kamina, dans la province du Lomami.
Maître Nelly Trésor Chimba, depuis Kamina, dans la province du Lomami. S'il faut que je commence par les innovations qu'apporte le règlement, les nouveaux règlements d'ordre intérieur du Sénat, je me dois de dire tout clairement, sans crainte de toute contradiction, que ce n'est pas à la République démocratique du Congo, mon pays, qu'il faut imputer le manque de textes, moins encore de bons profils des dirigeants. Mais c'est plutôt en ce qui concerne le respect de ces textes. Je me demande même si les élus des élus seront en mesure de nous présenter les meilleurs d'eux-mêmes, si, pour cause d'argent, ils ne parviennent pas à installer le bureau définitif du Sénat.
Alors, vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur. Vous avez suivi, Monsieur Michel Lingepo, la préoccupation de Maître Néhémie.
Merci de la parole. En fait, la démarche, elle est constitutionnelle. Je crois que tout part de là. Nous ne pouvons pas, en fait, violer la Constitution. La Constitution vous dit le bureau provisoire a trois missions. Validation des mandats, rédaction du règlement intérieur et ensuite installation du bureau provisoire. Je vous ai évoqué tout à l'heure des contraintes liées à l'organisation technique des élections. Donc, le retard est dit à cela. Et maintenant que nous avions adopté au niveau de l'Assemblée plénière le projet du règlement intérieur, qui sera soumis, je crois, la semaine prochaine à la Cour constitutionnelle pour être censuré sur sa conformité à la Constitution, nous attendons si la Cour constitutionnelle nous répond tôt. Je crois que dans deux semaines ou 10 jours, nous pouvons même installer les bureaux définitifs. Parce que c'est une question de heures pour installer les bureaux définitifs. Quand je dis 2 heures, c'est-à-dire 48 heures, 72 heures, nous pouvons en fait le faire s'il y a une harmonie. En fait, il y a une harmonie au niveau de la famille politique, opposition comme majorité. Alors, je voudrais quand même répondre aux préoccupations de M. Cambéry qui dit à quoi est-ce qu'apportent ces innovations. Mais moi, je répondrai, qu'est-ce que ces innovations dérangent? Ces innovations dérangent à quoi? Parce que nous avions dit, ces innovations liées au sénateur à vie, elles sont pratiquement d'ordre moral, ni politique. Ça dérange à quoi? Et c'est le moment, parce que lorsque nous renouvelons en fait leur chambre, c'est une question pour nous de voir la manière dont nous devons évoluer. Et le sénateur à vie en fait partie. C'est le moment opportun pour nous d'en parler. Parce que nous ne pouvons pas, en fait, proposer, en fait, la modification du règlement intérieur pour de ne parler que du sénateur à vie. Non, c'est l'occasion d'en parler en tout et pour tout.
Mais c'est le moment même qui pose problème, qui pourrait poser problème, comme l'a dit Etel Batoumike.
Ça ne peut pas poser les problèmes, parce que c'est un devoir constitutionnel.
Quel devoir?
Le devoir de rédiger au début de chaque législature les règlements intérieurs. Et le règlement intérieur en parle en ce qui concerne les anciens chefs de l'État. Est-ce qu'il faudra se soumettre en fait aux considérations politiques ou aux considérations constitutionnelles? C'est là en fait la question. Donc nous avions levé l'option de pouvoir en débattre sans considération politique. Si la question, on veut en fait la transmettre à des débats, des considérations politiques, moi je ne suis pas là. Ici, la démarche, elle est législative. Nous devons aborder toutes les questions, notamment liées à la gestion des fonds, qui est décriée par tous. Je vous ai dit ici, il y a innovation sur le plan des trésoreries, c'est-à-dire que mensuellement, les bureaux auront la possibilité de soumettre à une commission ad hoc le plan des trésoreries pour en fait en décider sur l'orientation et conseil. Et ce sont les innovations pour arrêter également la gabegie financière. Parce qu'on redit, on légifère sur base des besoins, de l'expérience connue. Nous avons dit ici que l'expérience connue, c'est que le sénateur à vie ne participe pas au débat alors qu'il a des expériences.
Il y a un auditeur qui a posé une question, un internaute plutôt, qui voulait savoir si le sénateur Joseph Kabila continue à percevoir son argent comme sénateur à vie. Vous si qui êtes sénateur.
Si ça a été budgétisé, je crois qu'il est en train de toucher parce que le budget est équité.
Merci. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Les contraintes financières et l'adoption du nouveau règlement intérieur ne sont que des raisons manifestes pour justifier le retard des élections et l'installation du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Les raisons manifestes seraient, à mon avis, le partage des gâteaux ou des postes qui divisent encore les membres de l'Union sacrée, surtout ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l'actuelle équipe gouvernementale. Je suis certain que dès lors qu'ils se mettront d'accord à ce sujet, ces élections se feront rapidement. Les politiciens congolais ne mettent pas au devant de la scène l'intérêt supérieur de la nation. Ils votent plutôt leurs intérêts et cela est un secret de polichinelle. Ce qui est déplorable est qu'à cause des positionnements d'un groupe de gens, on met de côté l'intérêt général du pays.
Ferdinand Kamere, brève réaction.
Oui, d'abord, je suis étonné que des sénateurs de cette législature ou de ces mandats, parce que c'est eux qui vont régler la vie d'un sénateur à vie. Un sénateur à vie, ce n'est pas un mandat comme vous, vous avez un mandat, honorable sénateur. Ce n'est pas un mandat. C'est juste un titre qui est subjectif à lui.
Mais
le statut qu'il a, c'est celui d'ancien président de la République. Et c'est là où on gère les droits et les obligations, dans cette loi-là. Et il veut l'ajouter quoi? Je vais vous lire, madame, l'article 5.9 de notre Constitution, là où il est écrit le droit des députés et sénateurs. Est-ce qu'ils ont vu dans cette Constitution une seule disposition adressée simplement aux sénateurs pour dire, voici, on peut aussi parler des obligations morales, comme ils sont en train de dire, d'un sénateur à vie? C'est justement l'acharnement de l'Union sacrée. Toutes les institutions ont perdu leur lettre de noblesse lorsque, sur un ancien président qui a respecté la Constitution, qui a permis à ce que tous les espoirs soient acceptés par la population lorsque il a réalisé l'alternance pacifique. Aujourd'hui, voilà, l'acharnement total. Et ça, ce que vous allez dire aujourd'hui, c'est plus pire que ce qui est dans la loi, qui est dans la loi protestative d'ancien président. Et on me dit, Madame Kelly, je vais peut-être conclure par là. Et on me dit, bon, les sénateurs doivent contribuer au débat. Mais enfin, on parle de quoi? Ils ont été élus pour quoi? Est-ce que c'est le sénateur à vie?
Pourquoi il ne peut pas contribuer au débat?
Mais qu'est-ce qui a dit qu'il ne peut pas contribuer? Parce que contribuer, même moi, je peux contribuer au débat au Sénat. Je peux être consulté comme sénateur. Je peux plutôt comme expert. et arriver à obtenir même une loi qui peut être votée par les institutions de la République. Qu'est-ce qui les empêche et de consulter un ancien président, un sénateur, même chez lui, même en dehors de l'hémicycle, pour l'obliger à vouloir, maintenant, il doit assister. Mais vous, d'abord,
pourquoi
qui avez demandé...
Pourquoi ça vous dérange, Maître Cambéré?
C'est pas juste
ça vous
parce
dérange?
Que, d'abord, un sénateur à vie n'est pas un mandat. Il ne répond pas à des mandats quelconques. Il répond de son statut d'ancien président de la République. Ça doit être clairement dit, d'abord. Il ne faut pas que les gens fassent des raccordements frauduleux pour commencer à inventer des obligations qui n'existent pas. Et surtout distraire que, non, comme il n'est pas là, il doit contribuer au débat. Quel débat? Qu'elle ne savent plus débattre.
Merci, Maître Cambéré. La
Gambie.
Merci, Maître Cambéré.
Et quand ils inventent des accusations, parce qu'il va tout dire que je vais chuter par là, justement, ça m'a rappelé. 30 secondes. C'est simplement que ce débat ne fait qu'étonner que les gens, au lieu de s'occuper des réels problèmes de la population, aujourd'hui c'est Kabila qui est l'homme à abattre. Mais parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il n'assiste pas au plénière.
Merci.
Mais ça c'est grave quand même pour une république.
Merci, Maître Cambéré. Ici Albatoumi, vous avez aussi 45 secondes pour conclure. Vous avez déjà parlé, s'il vous plaît, Maître Cambéré. Vous avez déjà parlé, vous n'avez plus la parole. Ici Albatoumi.
Je pense que nos institutions doivent apprendre à capitaliser sur l'expérience institutionnelle qu'il y a au pays aujourd'hui. Nous sommes à la 4e législature pour l'Assemblée nationale, la 3e pour le Sénat. Et comme le disait d'ailleurs le président Lutundu de la commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs, leur commission a travaillé en essayant de préserver les acquis des règlements antérieurs. Et donc, aujourd'hui, c'est une question qui ne devrait plus prendre assez de temps parce qu'il y a déjà des acquis, il y a une expérience au Sénat par rapport aux règlements préexistants. Et donc, aujourd'hui, on devrait faire vite pour prendre en compte l'urgence de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de notre pays et mettre en place les bureaux du Sénat et finalement que le Parlement soit au complet et que les initiatives parlementaires commencent à tomber en termes de contrôle et en termes de lois à voter. Il y a beaucoup, en lisant les programmes d'action du gouvernement, on voit un agenda législatif assez clair et qui demande à ce qu'il y ait un Parlement qui soit au complet. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on avance en mettant en place ces bureaux définitifs et que l'on n'enferme pas la République dans les querelles internes à des formations politiques pour la désignation de leurs tickets, comme on l'a vu pour l'Assemblée nationale.
Michel Ingepo, votre conclusion, votre mot de la fin.
Merci de la parole. D'abord, la question au niveau de l'Assemblée ou du Sénat ne se pose pas à ce qui concerne l'installation du bureau politique, du bureau définitif. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de querelles. Il faut que ça soit dit là-dessus. Je vous ai dit, le retard est dû à l'organisation technique des élections.
Voilà, compris.
Alors, à ce qui concerne, en fait, les obligations des anciens chefs d'État, je comprends les soucis de l'ami Cambéré. Il veut, du sénateur, des anciens chefs d'État, il veut à ce que les anciens chefs de l'État soient les intouchables.
Oh là là.
Voilà, j'ai compris parce que ici, les innovations que nous avions apportées à pour des motivations morales et non politiques. S'il veut les ramener sur des questions politiques, tant pis, je comprends que c'est une question d'instaurer l'intouchabilité. À ce qui concerne les assistants, parce qu'on nous dit pourquoi nous avions mis des assistants. Le sénateur a besoin de des assistants que, par exemple, un sénateur, parce que le sénateur représente sa province, le député, sa circonscription électorale. Donc, nous avons besoin d'avoir des assistants, l'un avec vous, l'autre dans votre province, pour vous aider à répertorier les besoins que vous recevez de temps en temps les appels, pour vous permettre à formuler en fait des initiatives de contrôle. Donc, les besoins est pressant que par exemple un député national. Et nous avons posé la question, est-ce qu'il était opportun compte tenu des questions budgétaires? Et nous l'avons dit, on ne l'applique pas maintenant, mais on diffère. C'est-à-dire qu'on verra avec le budget qui sera voté en 2025, s'il y aura la possibilité, en fait, de pouvoir l'intégrer. Ce sont des options que nous avions levées et le besoin est là. Alors, pour le reste, on veut faire voir, c'est comme si le Sénat s'est réuni uniquement pour... Non, nous avions innové en matière législative, des contrôles, des initiatives parlementaires. Les deux chambres doivent se retrouver de temps en temps au début de chaque session pour pouvoir examiner l'évolution des initiatives parlementaires. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que la question du sénateur à vie. S'ils veulent à ce qu'ils soient intouchables, qu'ils attendent le moment opportun lorsque nous allons revisiter la Constitution. Et en ce moment-là, on en parlera. Aussi longtemps qu'il est sénateur, il est à des obligations morales.
Merci. C'est ridicule. Dialogue entre congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.